journée selon Patrick Lagacé.
Salut Patrick!
Salut Ève-Marie!
Hey, ça fait un petit bout, il y a eu du voyage, il y a eu plein d'autres, comment je dirais, obligations qui faisaient qu'on pouvait pas jaser, mais je suis contente de t'avoir au bout du fil aujourd'hui.
Ben, réciproque, Ève-Marie, surtout que c'est une grosse journée pour mon journal.
Ben, tu comprends que j'avais hâte d'avoir ton opinion, savoir comment vous aviez vécu cette annonce-là, la presse qui devient aujourd'hui un OBNL, Organisme à but non lucratif, Power Corporation, qui dit, voilà 50 millions, faites une fiducie avec ça, nous autres, on s'en va.
Oui, et puis aussi, Power prend la responsabilité du... de la caisse de retraite. Donc, ça, c'est sûr que pour beaucoup d'entreprises, la caisse de retraite, c'est beaucoup de dépenses. Mm-hmm, mm-hmm. La presse ne faisait pas exception. Mais tu sais, on est encore dans la recherche du modèle. Puis là, du modèle qui va permettre aux journaux de survivre. Et d'être un OBNL, puis peut-être un OBNL bonifié, là, parce que je sais qu'il y a des négociations avec Ottawa depuis longtemps. Je t'avoue, là, quand, tu sais, il y a eu deux budgets là, fédéral, provincial récemment, mais avant le budget, il y a des syndicats de journalistes puis il y a des regroupements de journaux qui faisaient du lobby pour dire au gouvernement, écoutez, si vous faites rien, il y a des journaux qui vont mourir. Puis on peut se dire, c'est juste une entreprise commerciale, mais quand tu vois la production de nouvelles, de dossiers, d'enquêtes qui provient des journaux, ben tu peux aussi te dire que ta démocratie, elle risque d'être un peu amochée aussi, mm-hmm. parce que dans le débat public, ce que fournissent les journaux, c'est important. Mais là, moi, j'étais... Le gouvernement, par exemple, Ottawa, disait privément et publiquement, écoutez, on veut bien aider les journaux, mais nous autres, donner de l'argent à des entreprises et des familles milliardaires, comme les Desmarais au Québec avec la presse, comme les Thomson au Canada anglais pour le Globe and Mail, on n'est pas bien d'accord avec ça. Puis c'est quoi? Je savais pas quoi répondre à ça, à part, je pense que vous avez raison. Ouais. Mais là, si ça devient un OBNL, si ça devient une sorte de bien public, ben peut-être que dans un pays où tu subventionnes des émissions de cuisine, des talk shows, peut-être que, oui, tu peux trouver de l'argent pour financer d'une façon ou d'une autre, ou inciter le financement privé avec des incitatifs fiscaux, ben financer une nouvelle.
Ouais, Patrick, est-ce qu'entre collègues, vous aviez ces discussions en se disant, ben, ça serait peut-être mieux que la presse soit vendue à une autre entreprise privée, ou vous aviez déjà en tête peut-être le scénario de l'OBNL, quoi que très peu de gens l'ont vu venir, celle-là, là, mais.
OK, si je peux me permettre de me vanter, OK?
Ouais.
Je discutais avec Boisvert, Yves Boisvert, puis lui, il m'a dit, écoute, il dit, ce que j'ai entendu par la bande, c'est fiscalité. Fait que là, c'est là que je lui ai dit, ben, sais-tu quoi? Moi, je pense qu'on va devenir quelque chose comme un organisme à but non lucratif.
Ah, oh, t'as dit ça?
Parce que, mais ça, c'était à matin, OK? Parce que je me souviens du budget fédéral. Budget fédéral, Ottawa n'avait pas accepté de faire un plan de sauvetage pour les journaux, mais avait annoncé des mesures à déterminer là, pour que la philanthropie devienne plus facile pour des organismes comme les journaux. Fait que ce que je me suis dit, c'est, regarde, toi Yves, t'as entendu parler de fiscalité. Mm-hmm. Fiscalité, OBNL, ça a été mon meilleur, moi, c'est ce que je pensais ce matin. Est-ce que j'aurais mis ma paye là-dessus à Marie? Non.
Ouais.
Mais le scénario d'une vente à Roustan, l'ancien de Bauer, là, qui était dans les journaux de Québécois jusqu'à hier, là,
ouais.
Moi, j'y ai jamais cru. J'ai jamais cru à ça.
OK. Alors, pour l'instant, ben vous vous retroussez les manches, puis on écrit, puis on publie, puis on fait le meilleur quotidien possible, hein?
Exact. On essaye de... Tu sais, nous autres, on n'est pas des businessmen puis businesswomen. On fait ce qu'on... On va continuer à faire ce qu'on fait de mieux. C'est-à-dire essayer de sortir des nouvelles, faire des enquêtes, des chroniques puis des dossiers pour... essayer d'éclairer le débat public à notre modeste façon.
Ouais. Alors, des journaux, on passe à la télévision parce que tu veux revenir sur l'épisode de Tout le monde en parle dimanche dernier où il y avait autour de la table, entre autres, le cinéaste Denis Arcand et le maire de Québec, Régis Labeaume. Et ils ont parlé de ce qui s'est passé à la mosquée de Québec et t'avais envie de réagir là-dessus.
Ben, j'ai chroniqué là-dessus aujourd'hui, puis pour moi, la discussion entre M. Labeaume puis M. Arcand, ça incarnait bien, disons, la porte de sortie bien commode pour nous, les Québécois, de penser que le gars de Québec, le tireur de la mosquée, moi je ne le nomme jamais, ben c'est juste un cas de santé mentale. Regarde, c'est sûr qu'il y a un bout de santé mentale quand tu deviens à ce point enragé que tu penses que c'est une bonne idée d'aller tirer dans le tas quelque part. Mais il est aussi, je pense, l'excroissance d'un mouvement très haineux qui n'est pas particulier au Québec ou qui n'est pas particulier à Québec, qu'on retrouve partout, mais qui cible depuis deux décennies les musulmans. Puis je pense qu'il faut en parler. Je pense que il faut nommer les choses. Ça ne veut pas dire que les Québécois sont plus islamophobes que les autres. Ça veut dire qu'il y en a ici aussi. Ça veut dire qu'on l'a vu dans le cas de ce gars-là, s'abreuvait à des robinets islamophobes anglo-saxons. Moi, je pense pas que c'est en disant seulement que ce gars-là était « malade », entre guillemets, et en allant même plus loin, comme Denis Arcand le fait, en disant « on ne sait pas vraiment pourquoi il les a ciblés ». Ben regarde, quand on décortique les faits, là, puis tu les mets un par-dessus l'autre, il y a pas mal plus de faits qui pointent vers un gars islamophobe qu'un gars qui a juste pété une coche puis qui a décidé qu'il allait là puis qu'il aurait pu aller ailleurs.
Il ne faut pas oublier que dans les déclarations qu'il a faites après, on a compris qu'il avait peur depuis ce qui s'était passé en France et puis qu'il voulait absolument intervenir pour, entre autres, sauver ses parents d'éventuels terroristes. Donc ça alimente sa réflexion sur les musulmans, sur ceux qui pratiquent l'islam. Ça faisait partie de ces démons.
Ben, ça faisait partie de ses obsessions, je pense. Après ça, on a vu qu'il a joué un rôle pour essayer de passer, d'en passer une petite vite au psychiatre qui l'évaluait, de se faire passer pour disons, inapte, pas criminellement responsable, là, mais il a rapidement été déjoué par les psychiatres. Ouais. Bref, ce que je te dis, c'est, regarde, il y a un parallèle à faire avec Polly. Moi, je me souviens, Polly, j'étais un jeune adulte, quand les débats autour de Polly faisaient rage, il y avait cette théorie-là que le tireur de Polly, c'était juste un malade mental. C'est juste quelqu'un qui a disjoncté. Puis c'est une théorie qui est séduisante. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, quand tu vois les sous-cultures de incels, les sous-cultures de misogynes qui se fédèrent sur le net, qui se trouvent, puis qui pensent aux meilleures façons de tuer des femmes parce qu'elles sont pas capables d'entrer en relation avec des femmes, mais tu vois que ça se peut que ce soit pas juste des gars qui pètent des coches. Il y a une culture de la haine des femmes. On le voit de plus en plus parce que maintenant, comme j'écrivais dans ma chronique un matin, ces gens-là qui ont applaudi le tireur de Polytechnique, on les entendait pas. Aujourd'hui, on les entend puis on les voit, les gens qui font ça.
Ils se relancent les uns les autres jusqu'à ce que quelque chose comme ce qui est arrivé à Toronto se produise, même si ça n'a pas encore été clairement déterminé, mais on sait qu'il y a des liens très forts.
Voilà, c'est ça.
Puis il y a aussi eu la réaction de Régis Labeaume autour de la table dimanche en disant comment ça se fait que le tueur de Québec avait accès à des armes à feu aussi. Puis tu sais, il en a parlé pas longuement, mais il a soulevé le questionnement de l'accessibilité aux armes à feu. Toi, t'es allé aux États-Unis, t'es allé dans un club de tir, t'as parlé aussi des armes à feu dans un de tes récents textes.
Oui. Tu sais, je pense pas que ceux qui ont des armes à feu ont un problème de santé mentale. Je pense qu'il y a plusieurs types de propriétaires et d'amateurs d'armes à feu. Moi, je pense que je l'ai déjà dit à ton micro, je l'ai dit ailleurs. En tout cas, sincèrement, dans notre société, je ne comprends pas que tu puisses avoir des armes qui vont faire reculer la police si la police est appelée chez vous. Si tu es chasseur, as-tu vraiment besoin de 17 balles dans ton chargeur? Tu sais, mon collègue Tristan Péloquin faisait un dossier là, sur l'accès aux armes en fin de semaine dans la presse. C'est quoi la valeur sociale ajoutée de pouvoir tirer comme ça? Je ne sais pas. Si tu vas à chasse, moi, je n'ai pas de problème. Tu tues ce que tu manges, pas de problème. Mais le fait d'avoir des armes pour le fun, je vois pas c'est quoi la valeur ajoutée. Je comprends que tu as du fun à le faire. Je comprends ça. C'est quoi la valeur ajoutée pour la société versus le risque immense si tu disjonctes avec tes armes? Sincèrement, je ne sais pas. Je comprends pas que ces armes-là soient disponibles. Donc, ça, c'est ma position. Mais dans le cas, ce que disait M. Labeaume, Écoute, je suis sûr que pour se procurer ces armes, le gars de Québec de la mosquée est passé à travers le processus. Mais après ça, il y a-tu des suivis? On peut-tu faire des suivis avec tous les propriétaires d'armes? Sincèrement, c'est une infrastructure, là.
Ben, faudrait que ce soit dans un registre, hein? C'est, faut que tu puisses les retrouver.
Mais le registre, c'était pour les armes. C'était pas pour la psyché des propriétaires d'armes. Comprends? Tu peux acheter tes armes et être sain d'esprit. Mm-hmm. Et tu peux devenir
dépressif
un peu crackpot,
après, comme, évidemment.
Comme ce gars-là. Mm-hmm. Fait que voilà. Tu sais, c'est une question qui reste entière. Puis c'est vrai, la question des armes, je suis d'accord. Mais moi, je trouve que comme société au Québec, on a rapidement tassé sous le tapis le climat d'islamophobie qui existe ici comme il existe ailleurs. Et je le répète, puis je le dis, ça ne veut pas dire que nous sommes islamophobes. Ça veut dire que parmi nous, il y a des islamophobes. Et moi, je trouve que la condamnation des islamophobes, elle n'est pas assez vigoureuse socialement, politiquement.
On va parler de politique maintenant, Patrick, parce que depuis quelques semaines, il y a des députés, surtout des députés libéraux, hein, depuis quelques semaines, qui ont annoncé qu'ils ne reviendraient pas aux prochaines élections. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus? Est-ce que c'est parce que on voit venir la catastrophe puis on s'en va en courant ou c'est parce que c'est la fin d'un cycle puis on a envie de faire d'autres choses dans notre vie?
Je pense que c'est difficile de ne pas penser que c'est la fin d'un cycle. Difficile de penser qu'il n'y a pas des députés qui votent pas avec leurs pieds en s'en allant. Quand tu contemples 4-8 ans dans l'opposition, ça te tente peut-être pas de revenir. Il y a plein de raisons. David Hurtel a mentionné des raisons, disons, plus familiales. Là, je pense que quelqu'un dans sa famille qui est malade. Mais au final, il y a quand même une quinzaine de libéraux, dont plusieurs ministres, qui reviendront pas. Donc ça dit quelque chose, je pense. Puis c'est une autre facette de ce que peut être l'usure. Puis c'est tout à fait normal. Tu sais, Julie Boulay a beau s'en aller puis faire un pied de nez, là, Ève-Marie, là, je disais les analyses aujourd'hui. Reste que Julie Boulay est arrivée en politique en 2001. Donc 2 ans avant l'élection de Jean Charest. Écoute, depuis 2001, là, moi en 2001, j'avais pas d'enfant. Je venais d'acheter mon premier condo. Depuis ce temps-là, j'en ai acheté puis vendu 2. Et puis, j'ai acheté une maison. J'ai eu le temps de changer de journal puis de devenir chroniqueur dans un autre.
Ouais.
Mon enfant est un préado. C'est une vie, là, de 17 ans en politique, dans le cas de Mme Boulay.
Ouais.
Peut-être que ça tente de faire autre chose. Peut-être qu'à un moment donné, t'es tanné. Je veux dire, j'ai jamais passé 17 ans dans le même job. Je peux même pas contempler c'est quoi.
Et quel job aussi? Patrick, il faut le dire. Député là, ou ministre même, là, c'est demandant. Puis on le dit souvent dans nos discussions, c'est pas tout le monde qui est taillé pour ça. C'est constamment, t'es sollicité, tu dois répondre aux questions ou annoncer des choses, sourire, évacuer des questions. C'est vraiment demandant, là.
Marie, j'en suis beaucoup de députés, de ministres, de gouvernement, opposition. Je me rappelle pas c'était qui de la CAQ, mais tu sais, samedi matin, là, je pense que je me suis levé un peu tard, puis là, j'ai ouvert Twitter, puis il y avait une députée de la CAQ, je pense que c'est Nathalie Roy, qui était déjà dans un événement dans son comté. Tu comprends?
Mm-hmm.
C'est beaucoup de travail, député, là. C'est rare que tu vas travailler 4 jours semaine, que tu vas prendre ça. Que tu vas prendre ça relax.
Facile, mais
t'es toujours sollicité. Quand c'est pas en chambre, c'est dans ton comté, c'est dans ton bureau de comté. C'est prenant. Je voudrais pas faire ça.
Ouais, mais c'est tellement prenant, puis c'est tellement grisant qu'il y en a qui en redemandent. Marguerite Blais revient. Elle revient.
Marguerite Blais revient comme caquiste. Écoute, ça fait gagner la journée aujourd'hui est gagnée par les caquistes politiquement parce que cette nouvelle-là, une ancienne députée ministre libérale, bien appréciée, hein, même des deux côtés de la Chambre, qui décide de ne pas revenir avec le Parti libéral quand elle a choisi de revenir en politique, d'aller avec la CAQ, ça envoie un message. Écoute, elle se présente contre Paul Saint-Pierre Plamondon. Ça va être une belle bataille, mais c'est sûr qu'il y a un symbole contre le Parti libéral. Mais tu sais, le Parti libéral, une grosse machine. Je dis souvent que le PQ est dur à tuer, mais le PLQ est dur à battre. Puis quand tu regardes les sondages qui sont sortis il n'y a pas longtemps, le taux d'insatisfaction a baissé. Ça me rappelle juste que c'est jamais gagné battre les libéraux.
Marguerite Blais était il y a à peine un mois dans un événement libéral. Elle était à l'investiture de la candidate libérale Naomi Goyette. La photo circule déjà pas mal. Oui. Est-ce que tu penses qu'on va taper là-dessus longtemps pour nuire à la candidature de Mme Blais?
Ben, moi j'ai l'impression que Marguerite Blais, la personnalité, la politicienne, c'est une femme qui est appréciée même de ceux qui ne votent pas libéral, qui n'aiment pas les libéraux. C'est ce genre de personnalité-là, je pense, à la Véronique Yvon, qui peut fédérer des gens. Tu peux avoir de la sympathie pour elle, même si tu voteras jamais libéral. Tu sais. Elle a été connue avant d'être en politique.
Hey, c'est une ancienne animatrice télé là, qui rejoignait beaucoup les gens. Elle a déjà animé les Métro Stars avant que ce soit la soirée artiste. Là, c'est Métro Stars.
Et c'est pas une enragée de la partisanerie. Mm. Donc, moi, je suis convaincu que Mme Blais est allée à cette investiture-là probablement parce qu'elle a une affection pour la candidate libérale dans cette circonscription-là. Donc, on peut bien taper là-dessus, là, mais elle peut toujours se dire, écoutez-moi, mes amis sont pas liés à la couleur politique. Si vous voulez me taper dessus parce que je suis pas un enragé de la partisanerie, allez-y. Puis je pense que ça désamorce pas mal.
Elle va être au-dessus du débat si elle réagit comme ça.
Parce que oui.
Merci, Patrick.
Salut.
Salut, Patrick Lagacé, chroniqueur à la presse.